Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, cette prise d'otage qui aura finalement duré près de 7 heures à Paris. Le forcené a été interpellé. On reviendra aussi sur le Covid, bien sûr, les hôpitaux de Lyon qui déprogramment massivement. Jean Alési, lui, est en garde à vue. Et puis cette guerre du champagne, guerre entre la France et la Russie.
À 12h40, les coulisses de la prise d'otage qui a eu lieu à Paris. Alice Moreno a rencontré le patron de la BRI qui a négocié toute la nuit. Et à 12h50, zoom sur les non-vaccinés. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Ils seraient encore entre 5 et 6 millions.
La question du jour sur RTL.fr. Allez-vous limiter le nombre de convives à Noël? Vous dites non à 61%. Notre météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Amandine.
Qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil?
Qu'est-ce que je vous comprends? Oui, en plus il est quasi généralisé. Alors quasi pourquoi? Parce qu'il reste quand même quelques plaques de grisaille qui vont avoir du mal à se dissiper cet après-midi, notamment vers le centre, le Lyonnais, le long de la Garonne, et c'est plus nuageux près de la Méditerranée, mais partout ailleurs il fait très beau, beau mais froid, surtout au nord, de 0 à 4 degrés, jusqu'à 7 quand même sur les côtes, et de 10 à 17 degrés au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, ce soulagement immense dans le 12e arrondissement de Paris, c'est là qu'un homme a retenu deux femmes, puis une, pendant près de 17 heures dans une quincaillerie, Nicolas Burnand.
Oui, sur cette rue commerçante, les habitants de l'immeuble ont assisté au plus près à cette prise d'otage dans cette boutique à la devanture orange située au rez-de-chaussée. François a vu débarquer chez lui les policiers.
On est venu sonner à ma porte pour me demander si j'avais des plans de l'immeuble, pour savoir s'il y avait d'autres sorties. Puis après, il y a tout le BRI qui s'est posté devant la porte à l'arrière-boutique du magasin. Ils parlaient à peine, beaucoup par geste.
L'individu retranché est muni d'une arme blanche. Peu à peu, les policiers de la brigade de recherche et d'intervention, casqués, équipés de boucliers, se positionnent. Henri entend alors le début des négociations.
J'entendais le négociateur qui était juste devant la porte d'entrée. Puis derrière lui, il y avait une dizaine de policiers. Ils voulaient des cigarettes. Ils m'ont demandé si j'avais des cigarettes à lui donner pour le calmer, quoi, pour le rassurer. J'entendais même pas hurler. Apparemment, il était assez calme.
Au bout de plusieurs heures, le forcené libère la gérante de la quincaillerie. Sa sortie est protégée à l'extérieur par des policiers, leurs armes braquées. Calfeutré chez lui, Stéphane a assisté à ce spectacle depuis ses fenêtres.
Ils étaient là devant pendant des heures. Ils ont regardé par la fenêtre. Il y avait quelqu'un en face, derrière une voiture de gendarmes, avec des gros fusils, comme ils voulaient tirer à l'intérieur. Ils étaient prêts à intervenir.
Au lever du jour, fatigué, l'homme finit au petit matin donc par libérer la seconde femme vers 8 heures, avant de se rendre de lui-même aux forces de l'ordre. Le dénouement heureux d'un interminable huis clos, sans blessés et sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.
Récit signé Nicolas Burnand pour RTL. L'individu, Nicolas le disait, a été interpellé. Il s'est rendu. Il s'agit d'un homme de 56 ans, connu pour des troubles psychologiques et qui vivait dans le quartier.
On le connaît de quartier, qui passe tout le temps, il dit bonjour. Je crois qu'il est un peu déséquilibré, mais je crois que c'est avec le temps qu'il est devenu comme ça. Des fois, ils vous disent, je suis taxi, je suis magistrat, je suis ça. Chaque fois, il change d'avis, tout.
Vous attendiez à ce qu'il fasse ça?
Jamais, je pensais. C'est quelqu'un calme, passé, jamais il faisait mal à personne. Depuis 32 ans, je suis là et j'ai jamais pensé que ça peut arriver à nous.
Un témoignage requis pour RTL par Nerissa Emani. Dans une dizaine de minutes, on reviendra sur cette opération avec celui qui a dirigé les négociations, le patron de la BRI.
L'autre grand titre, c'est bien sûr le Covid et les hôpitaux lyonnais qui passent à la vitesse supérieure.
Toutes les opérations non urgentes sont désormais déprogrammées. Sandrine François est déléguée CGT aux hospices civils de Lyon.
Le souci majeur, c'est qu'en fait, il y a 95% des lits qui sont occupés déjà sur les HCL. En sachant que les départements limitrophes sont saturés totalement, les transferts vont se faire sur les HCL et du coup, on risque d'avoir énormément de demandes. Donc on est obligé d'anticiper ces demandes.
Quasiment tous les lits sont occupés aujourd'hui en réa et dans les soins critiques.
95%, monsieur. C'est énorme.
Et vous arrivez à faire face, j'entends par là, en termes de personnel?
Avec les congés de fin d'année, c'est un peu compliqué. Mais oui, encore une fois, les personnels font face.
La déléguée CGT des Hospices Civils de Lyon, joint pour RTL par Frédéric Perruche. À l'origine de ces déprogrammations, bien sûr, la très nette reprise de l'épidémie et les derniers chiffres ne sont pas bons. Agathe Landais, le record d'incidence, le taux d'incidence bat même un nouveau record.
Oui, on comptait hier 536 nouveaux cas pour 100 000 habitants. On n'avait jamais atteint un tel niveau de taux d'incidence lors des vagues précédentes. Une flambée qui s'explique en partie par le fait que l'on teste énormément aujourd'hui, bien plus que lors des vagues précédentes. Si l'on observe qui sont les personnes les plus touchées, on remarque que ce sont vraiment les jeunes adultes qui portent aujourd'hui cette vague de contamination. Chez les personnes âgées de 20 à 40 ans, les nouveaux cas ont augmenté de 20% sur une semaine. À l'inverse, les contaminations sont en légère baisse ou stagnent dans les autres tranches d'âge, notamment chez les enfants dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et chez les plus de 60 ans également. Des plus âgés moins touchés, c'est peut-être ce qui explique ce léger ralentissement des admissions à l'hôpital qu'on observe ces derniers jours. 16 000 patients Covid étaient hospitalisés hier soir, dont 3 000 en réanimation. C'est quand même deux fois moins de malades que lors des vagues du printemps ou de l'hiver dernier, grâce à la vaccination. Mais les soignants, et vous l'avez entendu dans le témoignage au micro de Frédéric Perruche, les soignants sont tout de même inquiets, car l'hôpital ne pourra pas, disent-ils, accueillir autant de malades que les fois précédentes.
Merci Agathe pour ces explications. Alors difficile encore de savoir quelle est la part du variant Omicron dans ces nouvelles contaminations. Une chose est sûre, il progresse et vite. Laurent Cabayère est biologiste et porte-parole du laboratoire Biogroup.
On voit depuis une semaine que le taux de positivité repart. On était arrivé à un petit plateau qui n'a pas duré longtemps. Hein. Mais là, sur le nombre de positifs, on repart clairement à la hausse. Hein. On a des régions dans lesquelles, notamment l'Île-de-France, sur les PCR positifs, 30% sont de l'Omicron. Et il y a deux semaines, on était à 2%. Mais c'est fulgurant. Sur la France, en général, on est à 10%. Mais ça monte partout. On double, voire on triple toutes les semaines. Donc, combien il y aura de contaminations dans 15 jours, 3 semaines? Difficile de l'anticiper, parce que ça va dépendre de l'attitude des gens. Et qu'il faut juste penser aux gestes barrières.
Le porte-parole du laboratoire Biogroup avec Virginie Garin.
Et tout ça intervient à 3 jours du réveillon.
Résultat, certains ont d'ores et déjà revu leur programme pour Noël. Illustration à Clermont-Ferrand avec vous, Guillaume Frixon.
Oui, exemple chez Marie-Paul, une institutrice à la retraite pour qui Noël est à chaque fois très attendu. Alors bien sûr, toutes les décorations sont déjà en place, mais cette fois, la table du salon n'aura pas besoin de rallonge. Ils ne seront que 6 pour limiter les risques.
On va manger, mais pas comme avant, quoi. On mangera en famille, mais pas autant qu'on a eu fait avant. Encore une année comme ça, et puis on verra l'année prochaine. On se rattrapera.
De son côté, artisan et triplement vacciné, Gérald, lui, est prêt à une seule concession pour Noël.
On est 6, et puis c'est tout. Hein. Et on va ouvrir toutes les 2 heures, à peu près, en gros, les fenêtres, et puis ce sera tout. Hein.
Enceinte de 4 mois, Estelle ira chercher des autotests avant de se rendre chez ses parents non vaccinés et vivant en milieu rural.
Nous, on va faire ça en petit comité puisqu'on sera 4. Bien se laver les mains aussi, c'est important. Et puis, on essaye de se préserver un maximum. On ne se voit pas souvent, donc on va quand même en profiter. Hein, faut pas se leurrer, mais en gardant ça en tête quand même.
Quoi qu'il en soit, le Covid devrait être à coup sûr au menu des discussions et pas sûr que ce soit vraiment un cadeau.
Reportage signé Guillaume Frixon pour RTL. Du côté du gouvernement, Gabriel Attal n'exclut pas de nouvelles restrictions. Nous entrons dans une période de forte turbulence, a prévenu le porte-parole. Le Premier ministre Jean Castex, lui, consulte aujourd'hui les élus, les maires ce matin, mais aussi les parlementaires. Ça, ce sera cet après-midi. Au cœur des discussions, le pass vaccinal que l'exécutif souhaite mettre en place. Le projet de loi, d'ailleurs, sera présenté en tout début de semaine prochaine en Conseil des ministres, selon nos informations.
Nicolas Dupont-Aignan, à présent, voit ses collaborateurs le quitter les uns après les autres.
À 4 mois du premier tour de la présidentielle, le candidat de Debout la France est soupçonné d'avoir caché à ses équipes qu'il était qu'à contact, Thomas Després.
Oui, officiellement, au départ, ce n'était qu'une petite grippe, début décembre, de la fièvre et de la toux. Mais en réalité, à ce moment-là, Nicolas Dupont-Aignan était qu'à contact de sa femme, oui, elle-même positive au Covid. Une situation que le député se serait bien gardé de raconter à ses équipes, selon certains collaborateurs. Il aurait continué ses déplacements, comme si de rien n'était, jusqu'à son test positif le 9 décembre, favorisant entre-temps la propagation du virus. Alors évidemment, Nicolas Dupont-Aignan nie complètement tout. tout. Il jure s'être isolé et avoir prévenu ses contacts. Mais dans son entourage, les langues se délient. Depuis le début de l'épidémie, il a complètement vrillé, m'explique ce matin un ancien collaborateur. Il n'était pas vacciné. Il criait partout que le vaccin et le pass sanitaire étaient inutiles. C'était même devenu une obsession, disent certains. Résultat, autour de lui, les départs s'enchaînent. Depuis le mois d'avril, pas moins de 11 personnes sont parties. 11 personnes. Il y a un mois, il ne restait plus que 2 collaborateurs et quelques stagiaires. Tous ont démissionné. Petit exemple, hier, un journaliste de la rédaction d'RTL était en contact avec sa conseillère en charge de la presse pour inviter Nicolas Dupont-Aignan sur notre antenne. Hier, elle était encore en poste. Aujourd'hui, elle ne l'était plus.
Thomas Després du service politique de RTL. L'armée française annonce avoir abattu l'un des assassins des 6 humanitaires français tués dans le nord du Niger. C'était en août 2020. Soumana Bourra, c'est son nom, a été neutralisé lors d'une frappe aérienne. Et puis je vous le disais en titre, Jean Alési est en garde à vue après une explosion devant un cabinet d'architecte près d'Avignon. L'ex-pilote de Formule 1 s'est rendu de lui-même au commissariat, Étienne Baudu.
Oui, au commissariat d'Avignon, et il a été placé en garde à vue après avoir reconnu les faits. Dimanche soir, vers 22h, dans le centre historique de Villeneuve-les-Avignon, Jean Alési avoue avoir déposé une fusée de feux d'artifice devant la devanture d'un cabinet d'architecte. Des barreaux sont tordus tout de même et une fenêtre brisée avec beaucoup de fumée. L'ancien pilote est dans la voiture de son frère Joseph, dont la plaque d'immatriculation est notée par des passants. Il explique confusément, semble-t-il, qu'il voulait faire une farce à son beau-frère, le patron du cabinet d'architecte en question. Mais les enquêteurs sont sceptiques, nous dit-on. La sœur de Jean Alési est en instance de divorce et il pourrait y avoir une affaire intrafamiliale, une question d'argent peut-être, c'est ce qu'essaient de savoir les policiers de la Sûreté départementale. Une mauvaise farce donc. Jean Alési habite sur les hauteurs de Villeneuve-les-Avignon où il possède le plus grand domaine de la commune.
Étienne Baudu du côté d'Avignon pour RTL.
Enfin, le bras de fer se poursuit entre Russes et Français autour du champagne.
Et oui, à partir du 1er janvier, les producteurs de champagne, le vrai français, vont devoir inscrire 20 pétillants sur leurs bouteilles. Donc ça sera pour les producteurs français. Seuls les vins russes pourront s'appeler champagne. Le monde à l'envers, vous allez me dire. D'autant que même les Russes ont bien du mal à comprendre tout ça, Pierre Herbulot.
Oui, parce que la gastronomie russe est en pleine expansion ces dernières années, bien aidée par les embargos occidentaux. Le guide Michelin y a même sorti un guide. Alors pour Dimitri, qui travaille dans la restauration à Moscou, la Russie doit assumer son vin.
Le vin pétillant russe est meilleur chaque année. On doit en être fier et l'assumer. On ne devrait pas copier les autres, ni essayer d'être ce qu'on n'est pas. Comme le cava, c'est un vin pétillant espagnol avec un nom qui lui est propre. On doit faire pareil.
Alors cette histoire de nom, champagne, vin pétillant, c'est uniquement de la politique. Hein. Une provocation, disent certains, une question d'argent pour Michel Lenz, chef français d'un restaurant étoilé de Moscou qui préfère ne pas trop se mouiller.
Je suis pas dans les bouteilles, moi, c'est pas moi qui les fais tourner. Non mais après le business, c'est pas moi. Les lois, c'est pas moi. Moi, je suis un cuisinier, moi, voilà. Donc je vends ce qu'il y a. Là, je vais pas me foutre la guerre et avoir des avis. Et en Russie, c'est mieux si on reste dans son domaine de compétences.
Voilà. Effectivement, il est un peu embarrassé.
Oui, un petit peu. Alors la semaine dernière, le comité champagne qui protège le nom en France s'est rendu en Russie pour discuter avec les autorités. Une réunion de ministres français et russes doit même avoir lieu aujourd'hui même pour trouver une issue au conflit. Il reste 10 jours pour se mettre d'accord.
Merci beaucoup Pierre Herbulot, enquête donc signée du service économie de RTL.
Deux sujets comme d'habitude dans une seconde. Le premier, ce sera les coulisses de cette prise d'otage qui a eu lieu à Paris. Alice Moreno a rencontré le patron de la BRI qui a négocié toute la nuit.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Allez, d'abord la fin de la prise d'otage dans l'Est parisien. Après plus de 17 heures, pas de blessés, le forcené a été interpellé. Nicolas Burnand, vous êtes sur place.
Oui, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Vous l'avez vécu en quasi-direct ce matin sur RTL. Cette fin de prise d'otage, donc, c'était aux alentours de 8h30 ce matin à Paris. Alice Moreno, on vous retrouve en direct du 36 Quai des Orfèvres. Vous avez, vous avez pu rencontrer tout à l'heure le patron de la BRI. En fait, c'est celui qui a dirigé les opérations cette nuit.
Absolument. Simon Riondet, patron de la brigade de recherche et d'intervention, qui a dirigé les opérations toute la nuit. Et il nous explique que 17 heures de négociation pour une prise d'otage, c'est du jamais vu depuis 30 ans, une négociation si longue. Il est revenu sur le dénouement d'une nuit de discussion.
Ce qui
qui va l'amener en fait à se rendre, c'est une écoute attentive. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le comprendre, ce qui nous permet aussi, encore une fois, de nous adapter, d'adapter notre dispositif, sentir s'il est en phase de montée un peu délirante et qu'il devient dangereux, ou au contraire s'il est en train de descendre. Et ensuite, ça va être l'amener vers la réalité. La réalité, c'est que c'est l'issue la plus favorable pour lui et pour tout le monde. Donc c'est cette écoute qui prend du temps, c'est ce dialogue, un mélange de compréhension et de fermeté qui permet de l'amener là. La sérénité nous permet parfois soit d'avoir une intervention très rapide, soit une négociation très rapide. Parfois, ça prend plus de temps, mais on sait prendre ce temps.
Voilà, vous venez d'entendre le patron de la brigade de recherche et d'intervention, Simon Riondet, qui a dirigé les opérations cette nuit. Il a accepté de nous parler de cette opération. Il a juste eu le temps de prendre une douche après cette longue nuit de négociation et s'est ensuite plié à l'exercice de l'interview.
Pourquoi une si longue négociation ?
Alors, 17 heures de négociation. Au départ, en fait, le patron de la brigade de recherche et d'intervention pensait que cette opération se déroulerait bien plus vite. Et finalement, c'est la personnalité de cet homme de 56 ans qui a changé la donne, ce forcené qui avait, semble-t-il, un grand besoin d'écoute, un grand besoin d'attention, une tendance un peu mégalomane. Il traversait des phases délirantes et il réclamait à parler à de hauts responsables. On vous l'a dit dès hier au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, puis plus tard au préfet de police de Paris. Et c'est d'ailleurs seulement quand le préfet Didier Lallemand est apparu ce matin devant cette droguerie du 12e arrondissement où il était retranché que le forcené est sorti avec la dernière otage et a pu être appréhendé.
Alice, c'est toujours le mot est peut-être mal choisi, fascinant vu de l'extérieur, mais pour les gens qui nous écoutent, ces discussions, on voit souvent des scènes de films où il y a des prises d'otages avec les négociateurs qui parlent. Est-ce qu'on sait un petit peu plus dans le détail comment ça se passe ? C'est par le téléphone
Alors écoutez, il n'est pas rentré dans le détail sur les moyens techniques employés. Ça peut être effectivement par téléphone, ça peut être par média interposé si le forcené a accès à un média et qu'il y a des informations qui sont répercutées. Voilà, la communication peut se faire par vraiment divers moyens. Ce que nous a assuré le patron de la brigade de recherche et d'intervention, c'est que tout au long de la nuit, le contact a été maintenu avec le forcené. On peut donc supposer que c'était bien par téléphone. Jamais il n'y a eu de rupture dans la discussion.
Merci Alice Moreno, merci pour toutes ces précisions. Dans une seconde, notre deuxième sujet du jour. Est-ce qu'il existe un profil type du non-vacciné ? Voilà une question intéressante. Odile Pouget est avec nous. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français.
Ça, c'était vendredi soir. Jean Castex évoquait pour la première fois le pass vaccinal que le gouvernement souhaite mettre en place. Le Premier ministre très ferme, vous venez de l'entendre, à l'égard des non-vaccinés. Alors, ils sont encore aujourd'hui plus de 5 600 000, d'après les derniers chiffres, à n'avoir reçu aucune injection. Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que sait-on d'eux ? On va voir ça dans un instant avec vous, Odile Pouget. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste santé ici à RTL. Avant cela, un mot avec vous, Benjamin Sportouche. Bonjour.
Bonjour.
Chef du service politique d'RTL, on a appris que le gouvernement allait déposer ce projet de loi sur le pass vaccinal dès la semaine prochaine.
Oui.
Ils accélèrent ?
Ils accélèrent. Il y aura un conseil des ministres. Alors, en début de semaine prochaine, au plus tard mercredi, nous n'avons pas encore la date, Gabriel Attal.
Lundi, paraît-il.
Il paraît lundi. Vous voyez, vous êtes bien informé. C'est aussi ce qu'on me dit. Mais comme je n'ai pas l'information à 100%, je préférais rester prudent. Voilà. Donc, ça doit être annoncé par Gabriel Attal, là, dans quelques instants. Il est en train de prendre la parole d'ailleurs sur le perron de Matignon où le Premier ministre recevait des associations d'élus. Et donc, en effet, le pass vaccinal sera à ce moment-là étudié par le Conseil des ministres pour qu'il puisse être présenté au Parlement.
Le Conseil des ministres, voilà. Sera exceptionnel lundi 27.
Voilà, avec donc derrière se passe cet examen au Parlement dès le 3 janvier. Et peut-être y aura-t-il un Conseil de défense sanitaire adossé à ce Conseil des ministres en début de semaine prochaine si les chiffres montent de contamination et peut-être des mesures de restriction plus importantes.
Merci beaucoup, Benjamin. Odile, je me retourne à nouveau vers vous. 5 600 000 non vaccinés d'abord. Parmi eux, il y a toujours un grand nombre de personnes âgées, très âgées.
Oui, absolument. Ils sont encore 491 000 de cette tranche d'âge à n'avoir reçu aucune dose. Alors, les injections progressent un peu au fil des semaines, mais c'est quand même très, très lent. Pour preuve, il y a plus d'un mois, à la mi-novembre, on en était à 500 000 de plus de 80 ans non vaccinés. Pour renforcer cette couverture vaccinale insuffisante, on sait qu'il y a toutes les opérations aller vers. On en a quand même beaucoup parlé. Il y a ce numéro qui permet de prendre rendez-vous pour une vaccination à domicile. Il y a les courriers, les SMS envoyés par la CNAM, l'assurance maladie. Mais les lignes, c'est vrai, ne bougent pas beaucoup avec des gens qui sont très souvent isolés, éloignés d'un médecin, d'un pharmacien, pour lesquels les déplacements sont très compliqués ou qui tout simplement ne voient absolument pas l'intérêt de se faire vacciner. Parce qu'ils ne croisent personne, en fait.
Mais c'est ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est pas que tant qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont isolés, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas bouger, etc.
Oui,
c'est important de le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même beaucoup d'aides qui leur sont fournies aujourd'hui.
Il y a aussi beaucoup, et ce qui m'a frappé, beaucoup de personnes qui ont entre 30 et 50 ans.
Alors, 12% des 30-39 ans, par exemple, ne sont pas du tout vaccinés. C'est quand même plus d'une personne sur 10 dans cette tranche d'âge. Même topo pour les 40-49 ans, avec 10% qui n'ont entamé aucun schéma vaccinal.
Une population, se sentent à l'abri.
Population qui peut-être ne se sent pas concernée, qui n'a pas peur d'être malade, mais qui pourtant a une vie sociale très active, qui travaille, qui rencontre là, à l'inverse, beaucoup de monde, évidemment. La dernière tranche d'âge la moins vaccinée, ce sont les mineurs, les 12-17 ans, peu concernés, on le sait, par les formes graves de la maladie. 20% des mineurs de 12-17 ans n'ont reçu pour l'instant aucune dose. Alors, c'est évidemment des chiffres extrêmement frappants si on les compare avec... par exemple, les septuagénaires, qui, eux, sont vaccinés à 99%.
Ah oui. Disparité régionale ?
Disparité régionale, absolument. Le Sud-Est, dans son ensemble, reste la région où on vaccine le moins. C'est une différence notable depuis le début de la campagne vaccinale il y a un an et qui ne s'est jamais résorbée. Et dans cette région, c'est le département des Alpes-Maritimes qui décroche, on peut le dire, le bonnet d'âne. Taux de vaccination à 69%. Sur tout le territoire en France, seuls trois autres départements sont bien en dessous du seuil des 80%. C'est la Seine-Saint-Denis et puis les deux territoires corses. En revanche, plus on va vers le littoral atlantique, plus la population est vaccinée. Record atteint dans les Landes et en Charente-Maritime avec plus de 83% de gens vaccinés.
Bon, alors on a vu l'âge, là où ils habitent. Que sait-on d'autre sur ces non-vaccinés ?
Alors, on en parlait il y a un instant. Il s'agit d'abord de personnes éloignées des soins. Mais il y a aussi, alors les profils sont évidemment très variés, mais il y a aussi beaucoup de précaires également, de personnes sans emploi ou à revenus très faibles. Selon une étude du ministère de la Santé, les populations qui bénéficient par exemple d'une complémentaire santé solidaire ont un taux de vaccination plus faible que la population générale. C'est de l'ordre de 40% seulement. Tendance confirmée par les enquêtes menées par Santé publique France sur le profil de ces Français réticents. Plus on est jeune, plus les revenus du ménage sont faibles et plus ces réticences sont fortes.
Merci Odile Pouget. Je profite également de la présence de Benjamin Sportouche dans ce studio. Les gens qui nous écoutent, ils n'ont qu'une inquiétude, c'est qu'il y ait des nouvelles restrictions avant le 1er janvier. A priori, l'Élysée dit non et l'Élysée ne parlera pas avant le 1er janvier et tout se passera bien le 24 décembre comme le 31 décembre.
A priori, oui, mais vous voyez que Gabriel Attal vient de dire qu'on rentre dans une période de forte turbulence. Il dit qu'il regarde les chiffres vraiment de manière très précise et qu'ils aviseront quand ils auront une vision assez large.
Mais rien n'est prévu. Aujourd'hui, a priori, on ne bouge pas.
On ne bouge pas. Mais vous voyez qu'il y a une accélération sur les informations.
Le conseil des ministres n'était pas prévu lundi.
Le conseil des ministres n'était pas prévu, il ne devait pas y en avoir. Il y en aura donc un en début de semaine, lundi. Et dès mercredi, Thomas Desprez du service politique vient de l'apprendre, eh bien, il y aura un examen à l'Assemblée. Ça commencerait dès le 29 décembre.
Commission, et jours de bien ça
sûr, oui, commission des lois, Assemblée nationale, mercredi 29.
Pascal confirme les informations du service politique.
Mais conseil des ministres exceptionnel, c'est peut-être pour avancer, pour donner quelques jours de vacances, honnêtement, le lundi. lundi 27.
Mais s'il y a débat au Parlement dès le mercredi...
Si vous voulez, là, ça veut dire que si les ministres sont priés d'être là la semaine prochaine, tout ne pourra pas se faire en visio.
Bon, bah écoutez, vous nous avez à demi rassuré. Il est 12h59. Merci beaucoup, Odile Pouget, pour ce profil de tous les vaccinés. On voit que c'est assez hétéroclite, d'ailleurs. 12h59, le rappel des titres dans une seconde. Les auditeurs, on est ensemble jusqu'à 14h30.
RTL Midi.